VOA Afrique, les infos, à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 9h en temps universel. Bonjour à tous. Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame aujourd'hui un nouveau mandat de 5 ans avec de vastes pouvoirs sous un nouveau système dénoncé comme autocratique par ses détracteurs, 2 ans après avoir échappé à un putsch militaire. Au pouvoir depuis 2003, d'abord comme premier ministre, puis président, M. Erdogan, âgé de 64 ans, a été confortablement réélu le 24 juin, remportant l'élection présidentielle dès le premier tour avec 52,6% des voix, loin devant ses concurrents. Le chef de l'État turc va prêter serment à 13h GMT, puis va présider une cérémonie au palais présidentiel inaugurant une nouvelle ère dans l'histoire moderne de la Turquie avec le passage au système présidentiel au terme d'une révision constitutionnelle adoptée étroitement par référendum en avril 2010. Le gouvernement conservateur de Theresa May était plongé dans la crise ce lundi après la démission du ministre du Brexit, David Davis, remplaçant la première ministre britannique dans les négociations sur la sortie de l'Union européenne. David Davis, un eurosceptique convaincu âgé de 69 ans, a démissionné dimanche, 2 jours après une réunion de Mme May avec ses ministres qui avait abouti à l'annonce d'un accord sur la volonté de maintenir une relation commerciale étroite avec l'Union européenne. Dans sa lettre de démission, il estime que cette voie ne permettrait pas de faire ce pourquoi les Britanniques ont voté. Le chef des secouristes évacuant le deuxième et dernier groupe d'enfants bloqués dans une grotte inondée en Thaïlande a réussi à assurer aujourd'hui pouvoir annoncer de bonnes nouvelles dans quelques heures. Dimanche, les plongeurs d'élite avaient déjà réussi l'extraction de 4 premiers garçons de la grotte inondée.
VOA Afrique en direct de Washington.
Sur le continent, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va rencontrer le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, cet après-midi à Addis Abeba, selon des sources onusiennes en Éthiopie. La visite du chef de l'ONU en Éthiopie intervient au lendemain de l'annonce par le premier ministre éthiopien de la normalisation des relations de son pays avec l'Érythrée à l'issue d'une rencontre avec le président érythréen à Asmara. C'est une percée après 20 ans de relations chaotiques entre les deux voisins, Bagassi Koura.
Cette annonce survient après des semaines de rapprochement entre les deux pays qui ont culminé avec des drapeaux éthiopiens flottant au vent et les acclamations de la foule massée le long des rues de la capitale érythréenne pour saluer Abiy Ahmed. Nous nous sommes mis d'accord pour la reprise du trafic aérien et naval pour la circulation des personnes entre nos deux pays et la réouverture des ambassades, a déclaré Abiy Ahmed à l'issue des discussions avec le président Isaias Afewerki. Plus tôt, les deux dirigeants s'étaient déjà mis d'accord pour établir les liaisons téléphoniques internationales entre les deux pays. La télévision officielle de l'Érythrée avait montré les deux dirigeants s'étreignant à l'aéroport, une scène inimaginable il y a encore quelques mois. Les plus hauts dirigeants des deux pays ne s'étaient pas retrouvés depuis près de 20 ans. Le sommet de dimanche fait suite à l'annonce par M. Abiy le mois dernier de la volonté de l'Éthiopie de céder à l'Érythrée un territoire frontalier disputé, un territoire que l'Éthiopie occupe toujours malgré un jugement d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU datant de 2002.
La RDC s'oppose à l'arrivée d'une délégation de haut niveau des Nations Unies et de l'Union africaine dans le pays. Selon un conseiller du président congolais, Joseph Kabila, la visite du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine en RDC est inopportune en cette période préélectorale. Dans une conférence de presse à la fin du mois de janvier dernier, le président Kabila avait critiqué la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, demandant qu'elle quitte le pays au plus tard en 2020. La MONUSCO, qui compte quelque 17 000 casques bleus pour un budget annuel d'$1,153 milliard, est l'une des plus importantes missions de la paix de l'ONU dans le monde. Et puis 6 membres des forces de l'ordre ont été tués dimanche dans le nord-ouest de la Tunisie dans une attaque terroriste selon les autorités, l'attaque la plus meurtrière depuis plus de 2 ans. Elle intervient alors que la Tunisie, secouée par une crise politique, espère vivre cette année une très bonne saison touristique à la faveur de l'amélioration de la sécurité qui a permis le retour en force de tout opérateur. Jean-Roger Billon à ce micro aux prochaines infos dans un peu moins d'une heure, 55 minutes précisément. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.